Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous donner le plaisir d'accueillir et de mieux connaître le président des Cahiers Verts de l'économie, Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre
Petit. Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre. Alors, vous venez depuis quelques mois de prendre la présidence donc des Cahiers Verts de l'économie à la suite de Monsieur de Citivaux.
Oui.
Et on vous connaissait de longue date à la fois comme économiste et aussi comme lauréat, double lauréat même du prix Turgot du meilleur livre d'économie financière. Alors, puisqu'on vous reçoit aujourd'hui, on va avoir le plaisir de faire un tour d'horizon de l'actualité économique et elle ne manque pas de sujets. Avant, peut-être un rappel sur votre parcours, très rapide, et surtout sur les cahiers verts de l'économie. Alors, vous-même, est-ce que j'ai fait une présentation très, très rapide ? Qu'est-ce que vous voulez compléter sur cette présentation
de... Non, mais elle est parfaite, cette présentation.
Bon.
Elle est suffisante et merci beaucoup.
Bon. Donc, alors, on en vient aux cahiers verts de l'économie. Quel est donc le cœur de métier des cahiers verts ?
Il y a 5 métiers, en fait. Il y a la recherche économique, bien évidemment, qui intéresse quand même encore beaucoup de gens, notamment des entreprises industrielles. Il y a la stratégie d'investissement. Alors là, c'est bien évidemment les choix d'allocation d'actifs compte tenu des évolutions conjoncturelles et structurelles au niveau macroéconomique. Nous avons une activité aussi de formation à l'économie et au marché de capitaux, au lien entre l'économie et les marchés de capitaux, quelque chose qui n'est pas très bien enseigné dans les écoles de commerce ou dans les troisièmes cycles universitaires. Nous avons aussi une activité de suivi du risque de contrepartie sur le marché monétaire interbancaire pour quelques banques. Et nous suivons spécifiquement les marchés émergents. Donc, nous avons 5 métiers tout à fait complémentaires.
Alors, 5 métiers donc, avec donc, une logique, l'indépendance.
Oui, absolument.
Alors,
une logique, c'est même le fondement des cahiers verts de l'économie.
D'accord. Alors, vous avez par ailleurs, donc, dans cette logique, des clients très prestigieux comme Carminac Gestion ou Rothschild, mais bien sûr, vous adressez pas simplement au grand nom de la place de Paris.
Non, mais nous adressons à toutes les entreprises industrielles. Nous avons une 60aine d'entreprises industrielles de différents secteurs, avec des grandes entreprises et des PME assez grosses ou moyennes. Donc nous avons un échantillon assez large. Même dans la gestion d'actifs, nous avons de très grands fonds de gestion francophones. Et puis nous avons des family office, donc on a toute une palette de clients aux besoins assez diversifiés.
D'accord. Alors, en fait, on se souvient que c'est votre métier de base. Hein. Vous êtes réputé comme un grand spécialiste de la recherche économique. Et donc, vous prolongez cette expérience à travers les cahiers verts de l'économie.
Oui.
Une question pratique, parce qu'il faut que nos auditeurs aussi puissent vous situer. On peut vous joindre sur le web, par Internet ou c'est directement...
Si on tape sur Google les cahiers verts de l'économie, on trouvera directement nos références. Sinon, on peut taper sur Socofi, qui est le nom de la société, socofi@socofi.com, et on aura directement tous les renseignements dont on a besoin.
Voilà. Donc, je pense qu'on a fait une présentation à peu près exhaustive. Peut-être nous dire avant...
Juste un point sur l'indépendance.
Peut-être. Voilà, un point sur l'indépendance. Donc, c'est quoi l'indépendance pour vous ?
Eh bien, nous ne vendons rien d'autre que notre recherche et rien d'autre. Pas de produits de gestion. Nous ne sommes pas un produit marketing pour développer des actions de vente commerciale, de produits financiers ou autres. Nous avons choisi tout simplement de dépendre exclusivement de nos clients plutôt que de nos patrons. Et donc, cela est très plaisant car cela élimine du stress inutile et nous pousse à une plus grande liberté, certes, mais également à une plus grande rigueur dans l'analyse. Voilà. L'indépendance est au cœur de notre activité et sans elle, nous ne pourrions pas nous développer.
Quels sont les domaines où vous êtes le plus, on va dire, intervenant et spécialisé ? Est-ce qu'il y a des zones ou des secteurs d'activité sur lesquels vous êtes plus actif ou vous êtes plutôt un généraliste ?
Bah écoutez, on n'est pas généraliste, on est actif dans plusieurs domaines qui sont cohérents entre eux.
D'accord.
Aujourd'hui, il est impossible d'avoir une vision claire de l'économie mondiale si vous ne regardez pas les pays émergents, qui sont les principaux contributeurs à l'économie mondiale. Il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de faire une analyse de la situation américaine si vous ne regardez pas précisément ce qui se place au niveau du marché immobilier américain. Il faut regarder tout cela de façon très précise, de façon rigoureuse. Nous avons, nous, une volonté dans l'ensemble de l'équipe d'avoir une grande exhaustivité de notre champ de recherche. Sur le plan économique, je vous ai parlé, il s'agit d'être précis maintenant quand on parle des pays émergents. Sur les différentes classes d'actifs qui se sont considérablement enrichies depuis une vingtaine d'années, parce que maintenant, il ne faut pas seulement regarder le marché actions, il faut regarder le marché obligataire privé, ce qu'on appelle le marché du crédit. Il faut regarder les marchés obligataires publics sur lesquels il y a toute une série de primes de risque qui sont en train de créer. Pour la première fois sur l'après-guerre, des pays riches, dits riches, développés, sont en train de subir des primes de risque avec le risque de défaut d'un État riche qui commence à être intégré par les cours obligataires. Nous regardons les matières premières, nous regardons bien évidemment le change. Donc nous avons une vue très très exhaustive au niveau de notre champ de recherche. On essaye d'être le plus pluraliste possible dans l'analyse des marchés avec des prévisions, avec les prévisions macro, mais également la valorisation des marchés, le sentiment de marché, les flux. Nous essayons d'avoir le plus de courage dans nos convictions tout en étant honnêtes et nous appuyons aussi sur une grande rigueur dans l'analyse des chiffres. Parce qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui que de répéter une idée en l'air non vérifiée. C'est pour ça qu'il y a plusieurs ingénieurs dans l'équipe qui, bien évidemment, ont un travail essentiel d'analyse des bases de données, de modélisation des bases de données, de mise en cohérence des données, d'analyse de la signification statistique des fluctuations de série, etc. D'une grande rigueur dans les concepts, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi et on dit beaucoup, souvent du moins, n'importe quoi sur les marchés. Comme le disait le grand Raymond Aron, une idée fausse est un fait vrai. Et ça peut durer très longtemps.
Oui, c'est vrai. Et ça fait très mal.
Et ça fait très mal à la fin, bien évidemment. D'accord.
Alors, donc, une petite équipe très réactive, très, très spécialisée et qui, donc, peut s'exprimer par un certain nombre de supports. Vous avez, lorsqu'on est client chez vous, on reçoit régulièrement
des revues mensuelles, puis les différents clients ont accès à un site Internet avec un identifiant, etc. Ils peuvent accéder à des séries d'éditoriaux, d'alertes, de graphiques, etc. pour compléter, bien évidemment, leur analyse de la situation de l'économie et des marchés.
Bien, alors je pense qu'on a fait un tour assez complet des cahiers verts de l'économie et de son président. Je rappelle simplement, et vous allez m'aider aussi vos talents d'auteur, ce que je présentais en début d'émission, en rappelant que vous avez été doublement prix Turgot. Alors prix Turgot, pour, rappelez-moi les titres des...
La Bourse, Rupture et Renouveau, c'était en 2003, et ensuite c'était La Finance Autrement.
Voilà.
Dans lequel, d'ailleurs, merci de me le rappeler, parce que j'avais commencé à développer mon idée, qui est une idée que j'ai toujours dans la tête depuis les années 2000, c'est que l'économie de bulles. C'est-à-dire que les bulles d'actifs, loin d'être des anomalies dans le capitalisme moderne, constituent un élément régulateur de ce capitalisme patrimonial et mondialisé dans lequel nous vivons depuis une vingtaine d'années, et que cette économie de bulles se renouvelle de manière régulière. Et on le voit encore aujourd'hui, il y a des phénomènes de bulles qui réapparaissent sur l'or, sur un certain nombre de métaux industriels, sur certains compartiments de marché émergents, sur certains marchés immobiliers résidentiels qui sont reflatés grâce à des baisses de taux, grâce à des mesures gouvernementales, etc. Donc l'économie de bulles, avec tous ces aspects parfois positifs, mais également, il faut bien le reconnaître, souvent négatifs, je l'avais développé dans les deux ouvrages que vous venez de signaler.
Oui, et c'est une forme de régulation, on va dire, de la finance et de l'économie moderne.
Oui, comme on connaissait déjà par certains côtés avant, dans le capitalisme d'avant 1914.
D'accord. Voilà donc une bonne introduction pour maintenant passer à l'actualité économique. Les sujets ne manquent pas. Ce que je vous propose, c'est que nous commencions par ce que je pourrais appeler la balade irlandaise, qui, bien entendu, est en plein dans l'actualité, qui a surpris, on dirait, l'ensemble des pays européens. Quel est votre regard sur ce sujet ?
Mon regard général, il n'y a pas que l'Irlande, c'est que l'hétérogénéité européenne s'accroît. Ceci a été révélé notamment par la crise. Voici un pays, l'Irlande, qui a connu une puissante bulle immobilière, qui a connu un système bancaire hypertrophié, complètement déconnecté de l'activité économique dans ce pays-là. Il faut savoir que les actifs bancaires des banques irlandaises ont représenté jusqu'à 900% du PIB irlandais. Aucun autre pays, si je mets à part la Suisse et l'Islande, qui n'est pas un bon exemple d'ailleurs, n'ont connu une telle dérive. Voici un pays qui a connu une dépression considérable. Le PIB nominal est aujourd'hui en dessous de par rapport à son niveau pré-crise, de 18% en dessous de son niveau pré-crise. C'est, le taux de chômage est à 14%, il était à peine à 4% avant la crise, les prix immobiliers ont baissé 36%, enfin voilà.
Mais les difficultés irlandaises ne tiennent pas simplement qu'à leur banque, elles tiennent aussi à la politique économique et fiscale de son gouvernement.
Je dirais qu'actuellement, eu égard aux efforts qu'a fait le gouvernement irlandais sur son plan d'ajustement budgétaire, c'est essentiellement les besoins de recapitalisation de son système bancaire par l'État qui ont généré le stress récent et qui ont amené les instances européennes à mobiliser un package global de 85 milliards en faisant intervenir les deux fonds européens de soutien et le FMI, tout à fait exceptionnel, qui représente 85 milliards, c'est quasiment 50% du PIB irlandais. Avec de bons éléments là-dedans, mais des insuffisances. On regrette notamment, bien évidemment, que la Banque Centrale Européenne ne soit pas tout de suite intervenue pour soutenir le marché obligataire irlandais ainsi que le marché obligataire portugais, qui est inévitablement touché dès que l'Irlande va mal. Parce que, bien évidemment, en Europe, le problème, c'est que la contagion est quasi immédiate. La contagion n'est pas le fait des méchants spéculateurs. Elle est immédiate. Pourquoi ? Parce que la zone euro, l'Europe, est une zone extraordinairement intégrée sur le plan économique et surtout financier. Les engagements bancaires des uns par rapport aux autres, les engagements bancaires même du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne par rapport à l'Irlande, aux banques irlandaises et vice-versa, sont énormes. Donc on sait très bien que si la situation des banques irlandaises se détériore, la situation de l'État irlandais va se détériorer, mais la situation des systèmes bancaires des autres pays va se détériorer. Donc, la situation également de la dette souveraine des autres pays va se détériorer. Il y a un cercle vicieux naturel qui s'auto-entretient s'il n'y a pas des éléments d'apaisement, des éléments de mutualisation de crise qui se mettent en place.
Mais alors, vous qui êtes économiste, orthodoxe, on va dire...
Ah non, je ne suis pas orthodoxe.
Non, vous n'êtes pas orthodoxe. Bon, alors déjà, au moins, ça nous évite un très long débat. Mais en tout cas, quel regard portez-vous sur le fait qu'aujourd'hui, dans une zone économique qui est parmi les plus puissantes du monde...
Oui, mais qui est en déclin quand même. Hein.
Mais qui est en déclin. Mais qui a donc une monnaie commune, comment peut-on justifier durablement des écarts de taux sur les dettes des pays qui ont tous l'euro, qui vont du simple au double ?
Écoutez, c'est la situation présente qui est un peu plus normale que la situation précédente.
Mais avec une monnaie unique, comment on peut le...
Ben parce que les politiques budgétaires restent totalement décentralisées. Il n'y a pas de souveraineté de la zone euro. Il n'y a pas d'État représentatif de la souveraineté de la zone euro. Et c'est peut-être qu'un jour, ce que souhaiteront les marchés, lorsque les marchés recommenceront à attaquer soit l'Espagne, soit au-delà l'Italie, la Belgique, voire la France, eh bien les marchés n'exigeront pas seulement ce type de package, c'est-à-dire de mécanismes de garantie fondamentalement qu'on met en place, ils demanderont carrément à l'Allemagne, aux pays les plus excédentaires, les pays les plus, disons, vertueux ou rigoureux, de carrément mobiliser leurs propres recettes fiscales au profit de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, voire de ces pays qui seraient attaqués comme éventuellement l'Espagne ou la France. Donc un véritable début de fédéralisation budgétaire et fiscale. Mais je reviens sur ce que vous disiez. La situation de bulle, la situation véritablement irrationnelle, c'était avant. Quand la Grèce, malgré toutes ses turpitudes, malgré ses tricheries, malgré le fait que c'est un pays qui n'a jamais fait l'effort significatif en matière de finances publiques, avait un écart de taux avec l'Allemagne quasi insignifiant avant 2007, c'était cette situation-là qui n'était pas normale. Et là, il y a une redécouverte, forcée par les événements certes, mais une redécouverte du risque souverain en Europe. Et je dirais même que ça va au-delà du risque souverain, c'est même le risque pays. Puisque bien évidemment, si les États ne vont pas bien, les banques ne vont pas bien. Ouais, évidemment, puisque les banques ont dans leur actif beaucoup d'obligations public, bien évidemment. Et si ça ne va pas, bah les banques nationales vont subir une augmentation de la fiscalité. Enfin bref, il y a une association entre le risque souverain et le risque bancaire naturel également. Et tout ceci s'auto-entretient.
Alors, comment vous, donc à la visibilité d'aujourd'hui, vous voyez, entre guillemets, la sortie de cette crise extrêmement forte de l'Europe, de l'euro? Le scénario que vous privilégiez, c'est une sortie quel type ?
Mais sortie, là, il y a une sortie provisoire.
Oui,
mais est-ce que cette question ne reviendra pas sur la place ? Ma réponse est plutôt oui, elle reviendra. Elle reviendra à travers des événements qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, effectivement, il y a des affichages en termes de réduction des déficits publics, des réductions de dette publique, etc., en fonction de prévisions de croissance des différents États d'ici 2013-2014, mais des événements de nature bancaire, des événements de nature politique, des changements de coalition, comme on vient de voir, notamment en Irlande récemment, des événements de nature sociale, qui, ces trois risques-là, risques bancaires, économiques et sociaux, qui pourraient bien évidemment amener les États à dévier de leur objectif de réduction des déficits publics, voire carrément à remettre en cause ces objectifs, bien évidemment, c'est un risque majeur. Il y aura des élections nationales dans deux grands pays de la zone euro en 2012, en Espagne et en France. Eh bien, c'est quelque chose que, bien évidemment, les marchés suivront très attentivement. Parce qu'il est bien évident que cette histoire de réduction des déficits publics et de la dette publique que l'Europe s'est imposée, ça va durer des années et des années. On est bien parti pour une bonne dizaine d'années.
Alors, par rapport, donc, on est sur le terrain monétaire, donc on vient de voir les causes de fragilisation de l'euro. Par contre, si on replace ce sujet dans un contexte plus général, qui est celui, entre guillemets, de la guerre des monnaies, quel est le regard que vous portez sur ce sujet-là ? La guerre, je ne sais pas, c'est peut-être le mot. Le mot est peut-être un peu fort, mais il y a l'euro et puis il y a d'autres choses. Hein. Il y a la monnaie de la Chine.
Il n'y a pas de guerre, en fait, fondamentalement. Ouais. Ou alors, il y a une guerre des monnaies, mais il y a une guerre d'échange. Mais une guerre fiscale aussi, une guerre sociale, une guerre technologique.
Donc une guerre...
Même en Europe, il y a une guerre fiscale, puisque l'Irlande, malgré sa dépression, maintient une guerre fiscale positive de son point de vue, en maintenant son taux d'impôt sur les sociétés extrêmement bas.
Donc, 12%, quelque chose comme
ça. Voilà, il y a une guerre d'échange, et cette guerre-là n'est pas plus préoccupante que les autres. D'ailleurs, j'observe que les travaux académiques ne montrent pas de lien très clair entre la volatilité d'échange et le commerce international. Et l'OMC a publié une étude récente qui tendait à montrer que depuis le démarrage de la crise, depuis Lehman, en fait, depuis 2 ans, les actions de restriction commerciale n'ont touché que 1,5% à peu près du commerce mondial. Donc c'est assez faible. Et puis de toute façon, pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'on parte d'une certaine manière à égalité. Or, on n'est pas à égalité. Il n'y a qu'une seule devise des références dans le monde. Ça reste le dollar américain, que ce soit en tant qu'instrument de réserve, instrument de transaction ou unité de compte. Donc c'est les Américains qui, à la fin du match, décident. Et à travers la baisse du dollar qu'ils ont enclenchée à travers le quantitative easing, c'est-à-dire l'action de la Réserve fédérale, quel est leur message aux pays riches ? Le message aux pays riches, c'est de dire « faites comme nous ». Et d'ailleurs, la BCE va peut-être s'y mettre au quantitative easing. Donc, en fait, il n'y a pas de guerre d'échange. Il y a une compétition, tout simplement.
Économique. Il y a une guerre économique, on va dire.
Oui, mais ça depuis longtemps, et ça, on le sait. Mais le change n'est qu'un instrument parmi les autres.
Oui, d'accord. Autre question, donc Chine, Amérique, vous avez écrit quelque chose dans le dernier ouvrage du Cercle Turgot. Comment vous voyez, la Chine se fait un petit peu plus discrète ces temps-ci, mais elle a toujours un taux de croissance qui est absolument, des excédents commerciaux qui sont absolument remarquables. Quelques observations sur ce
sujet. Écoutez, il y a quand même une bonne nouvelle en République populaire de Chine depuis de nombreux mois, de nombreux trimestres, et c'est ce que j'avais évoqué dans ce petit ouvrage collectif qu'on avait fait sur la Chine-Amérique, c'est le développement de la consommation des ménages.
Oui, c'est ça, c'était votre...
Et voilà, et c'est validé pour l'instant par les chiffres. Par exemple, depuis la reprise économique du printemps 2009, on voit que les ventes au détail, c'est-à-dire un proxy de la consommation en Chine, vont plus vite que le PIB chinois. Donc le poids de la consommation, alors à partir d'un bas niveau certes, mais le poids de la consommation dans le PIB monte. Et ceci est validé par les décisions, notamment des plus hautes instances dirigeantes chinoises, notamment le 12e plan qui a été examiné par le comité central du Parti communiste au mois d'octobre, qui valide cette idée, notamment en développant une certaine forme de protection sociale en matière de santé, des hausses de salaire minimum, une plus grande autonomie aux paysans, enfin bref, toute une série de leviers qui permettent d'envisager une progression relativement soutenue de la consommation des ménages chinois. Il faut dire que les autorités chinoises savent que pour leur futur, pour l'avenir, ils ne peuvent plus compter autant qu'avant sur le consommateur occidental, qu'il soit américain ou européen. Et donc, il faut que par eux-mêmes, bien évidemment, surtout compte tenu de leurs excédents courants, eh bien, ils développent une croissance un petit peu plus auto-entretenue et un peu plus endogène.
Ce qui serait donc les premiers signes, peut-être, de l'apparition d'une classe moyenne, on va dire, chinoise.
Mais il y a déjà des signes.
Il y a déjà des signes assez clairs, là.
Tout dépend de ce que vous entendez par classe moyenne.
Oui, ça commence. Mais attendez,
regardez les revenus par habitant, parité de pouvoir pouvoir d'achat, mais d'une manière générale, la pauvreté a considérablement reculé et le poids des revenus moyens, le poids des gens en pourcentage de la population totale qui dispose d'un revenu proche de celui des classes moyennes occidentales a considérablement progressé.
C'est une tendance lourde, cette émergence progressive d'une classe moyenne, on va dire, monde.
Mais c'est le grand espoir qu'on a sur la prochaine décennie.
Tout à fait.
Parce que, hélas, quand je parlais du déclin de l'Europe, mais c'est le déclin du monde occidental, sachant que le Japon est lui-même déjà en déclin accéléré depuis une vingtaine d'années. Les États-Unis aussi sont en déclin. Leur part de marché a considérablement diminué, leur croissance est moins forte, leur leadership technologique a été un petit peu challengé. Bref, leurs infrastructures sont en difficulté, ils ont des déficits publics très importants. Enfin bref, je ne veux pas non plus trop développer, mais le monde riche est en déclin.
Ouais.
Ça, c'est indéniable. En déclin économique, mais il faudrait dire aussi en déclin politique, le G20 l'a montré, et sont un déclin, à mon avis, également stratégique, parce qu'il est bien évident qu'avec les contraintes de finances publiques qu'on va avoir, ça va être difficile de maintenir notre présence militaire aussi fortement qu'auparavant de la part des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Enfin bref, l'Occident et où le monde riche est en déclin d'une manière générale. Donc on a besoin, et ce déclin ne va pas être mis en cause du jour au lendemain. La croissance sera probablement faible au cours des prochaines années par rapport à ce qu'elle a pu être dans le passé, dans la plupart des pays riches. Donc raison de plus pour compter, entre guillemets, sur le monde émergent.
D'accord. Alors, je rappelle d'ailleurs pour nos auditeurs que le livre auquel vous faisiez référence est La Chine-Amérique, qui est paru donc, chez Erol, qui est toujours donc, d'actualité. Et peut-être pour terminer ce tour d'horizon sur l'actualité économique, venons dans le périmètre national. Alors, périmètre national, le rapport Attali est sorti il y a quelques mois. Un certain nombre de propositions qui ont été accueillies d'une façon plutôt nuancée, du type mise sous contrôle de revenus des allocations familiales ou bien encore l'émergence d'une TVA sociale. Alors, ce que dit le président Attali, en synthèse de son rapport, c'est que la France est certainement un peu handicapé par rapport à sa capacité de redressement, redressement qui s'impose à l'ensemble des pays, on va dire, développés par rapport à leurs dettes, parce qu'elle va rentrer durablement dans une période d'élection. Ce qui,
elle est toujours en élection.
Est toujours en élection. Donc, ce qui diffère d'autant sa capacité de sursaut. Donc, sur ce point de la relance, de la rigueur, la nécessité d'une politique de redressement. Qu'est-ce que vous dites en quelques mots?
En quelques mots, de toute façon, je ne crois plus à la France depuis très très longtemps.
Ah, voilà. Alors ça c'est...
Et quand je dis que je ne crois plus à la France, c'est-à-dire que je ne crois plus à la capacité de la France d'effectuer un sursaut économique au cours des prochaines années. Je vis très agréablement en France, mais je ne crois pas à la capacité qu'aurait ce pays de se redresser substantiellement et structurellement au cours des prochaines années, pour des raisons, à mon avis, largement extra-économiques, pour des raisons... parce qu'il y a des gens formidables en France, des gens très entreprenants, très innovants, etc., mais pour des raisons plus institutionnelles, politiques, historiques, sociologiques. Voilà un pays vieillissant, étatiste, corporatiste, et il faut quand même bien reconnaître, sans faire injure à personne, que la qualité des élites politiques a considérablement diminué. Enfin, pour moi, c'est mon sentiment.
D'économiste. Là, c'est pas de la politique.
D'observateur. Et il y a un problème de compréhension, il y a un problème de capacité d'action, tout simplement. Et en plus, alors, ce que j'aime pas tellement dans le rapport Attali, c'est cette focalisation sur la nécessaire réduction des déficits publics. Nous sommes tous, en Europe en particulier, dans menaces déflationnistes. Je pense que la mauvaise gestion de la crise grecque a amené à cette surenchère dans la réduction des déficits publics qui n'était absolument pas nécessaire. Je ne suis pas du tout favorable, bien évidemment, à des déficits publics et des dettes publiques ad vitam aeternam, mais je considère qu'il faut du temps. Alors même que nous n'avons pas d'instrument de change, que nous avons une politique monétaire qui est un peu moins expansionniste que celle des États-Unis ou celle même du Royaume-Uni, que nous avons plein de handicaps structurels, mettre l'accent sur un objectif de réduction à tout prix, quelles que soient les conditions des déficits publics, n'a pas de sens pour moi. Surtout alors même que l'économie européenne, comme on l'a dit tout à l'heure, est très intégrée. Donc les effets, si vous voulez, des actions de restriction budgétaire vont avoir des effets démultiplicateurs très importants au sein de la zone euro. Alors même que les conditions économiques sont très divergentes d'un pays à l'autre. Donc cette absolue nécessité ou cette idée suivant laquelle la réduction des déficits publics est la condition nécessaire et urgente, immédiate, pour aller de l'avant au niveau d'un éventuel sursaut économique, je n'y crois pas un instant. À mon avis, ce n'est pas le sujet. Nous avons une menace indéniable, c'est la menace du scénario à la japonaise, c'est-à-dire une quasi-stagnation du PIB nominal. Nous ne résoudrons jamais aucun problème de dette si nous entrons en déflation à la japonaise. Quel était le pays en 1990, il y a 20 ans, qui avait la dette privée et publique la plus élevée en pourcentage du PIB? C'était le Japon. Quel est le pays qui, en 2010, 20 ans après, a la dette publique et privée la plus élevée? C'est le Japon. Jamais on ne résoudra nos problèmes liés au vieillissement, liés à la dette, à notre manque de compétitivité, si on entre en déflation. La condition nécessaire à un redressement, c'est d'éviter le piège déflationniste. Et donc, il ne s'agit pas d'en rajouter dans la surenchère de la rigueur budgétaire.
D'accord. Donc, le pire serait un scénario protectionniste et 1929, ouais. Donc
déflationniste. Ce serait encore pire.
C'est encore pire. Ouais.
Voilà, c'est encore, ça nous enfoncerait probablement encore plus. Voilà.
Voilà, eh bien écoutez, c'était avec une communication très directe, un style que nous apprécions, les convictions économiques et le regard sur l'actualité du président des Cahiers Verts de l'économie, Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, merci encore et à très bientôt sur notre antenne.
Merci. À bientôt.
Merci.